France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
On a beaucoup fusionné cet après-midi à Lyon, à Limoges, à Toulouse, à Besançon, à Clermont, à Lille, à Brest. Fusion aussi PS-LFI à Nantes, à Avignon, fusion écolo-LFI à Strasbourg, fusion à droite à Nîmes, fusion à droite à Paris, Dati Bournazel, c'est tout récent, pas de Front Républicain à Nice, fusion LR-RN à Reims, je parle sous le contrôle de mes invités, c'est la seule. D'accord, merci. Pas de mariage d'amour en tout cas, beaucoup d'alliances techniques, on va vérifier, mais je crois que c'est la seule. À Poitiers, il faudra apprendre à dire exangulaire pour 6 candidats. Merci beaucoup au journal Le Monde pour le vocabulaire assez inédit. Septuagulaire aussi, vous l'avez entendu à 19h tout à l'heure, à Saint-Jean-de-Véda, c'est près de Montpellier, ça veut dire 7 candidats. En lice, ainsi vont ces élections municipales. Ce premier tour, en tout cas, cette journée de tempête de cerveau a surtout conforté donc les insoumis sortis renforcés de ce premier tour. On demandera à nos invités si c'est le mot qui convient. En tout cas, la stratégie, si elle a fait à fonctionner, les dérapages en meeting de Jean-Luc Mélenchon ces dernières semaines n'ont pas fait trembler devant l'urne les électeurs. Et si le PS reste puissant dans les grandes villes, il faut être puissant, comme Marseille ou Paris, pour dire non à toute forme de fusion de lice ou d'alliance, on verra si c'est payant sans mauvais jeu de mots. On va aussi regarder du côté du RN, l'autre parti qui tire son épingle du jeu. Dans une moindre mesure, peut-être, on verra, le RN conserve ses fiefs assez tranquillement, a du mal à s'ancrer dans d'autres très grandes villes. De ce point de vue, c'est peut-être un pari raté. Attendons quand même Toulon et Marseille par exemple, mais le parti remporte aussi beaucoup de petites communes. Est-ce que ce premier tour, c'est avant tout un avant-goût du duel Mélenchon-Bardella des présidentielles qui a déjà fait l'objet de multiples conjectures et même son sondage, eh bien, nous posons la question. Je vois déjà des noms autour de la table par ici. Le reste, eh bien, quel reste ? LR n'est guère dans le jeu des grandes villes. Continue à peser quand même dans beaucoup de moyennes communes. Nous y viendrons. Le centre macroniste est très stable par rapport à l'élection précédente, c'est-à-dire absent ou quasiment. En n'oublions pas le chiffre le plus impressionnant, peut-être celui des abstentions. Il y a, faut-il le rappeler, un peu plus de 50 millions d'électeurs en France. 22 millions ont choisi de ne pas voter hier. C'est le téléphone sonne, les amis. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
François, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu. Bonsoir.
Oui, bonsoir. D'abord, je voudrais vérifier si à Lille, c'est les trois partis de la gauche qui sont prévus pour le second tour ou seulement deux sur trois.
Eh bien, écoutez, on a ce qu'il faut pour répondre à ce genre de questions. C'est vous, Maxence Lambrecq.
Bonsoir.
Alors,
oui, alors, eh bien non, il y a une fusion entre le socialiste Arnaud Deslandes, héritier de Martine Aubry, et la liste écologiste portée par Stéphane Bally. Ça a été un long 24 heures de tractation pour les écologistes qui ont vraiment hésité entre faire tomber le socialiste et rejoindre les insoumis ou rallier les socialistes. Donc non, deux listes de gauche, une PS écolo et une autre LFI.
Voilà, donc pas de fusion à trois. Vous aviez une suite de questions, François, on vous écoute. Maintenant que la précision est donnée.
Parce que là, j'ai envie de les engueuler. C'est pas normal que les trois, je vois aucun problème, moi, en ce qui concerne la candidate de LFI à réunir, à faire l'union. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai en vision 2027. Et puis, apparemment, il n'y a pas eu trop de disputes dans le coin entre eux. Enfin, voilà. Et 2027, pour moi, c'est important, bien sûr. Et j'ai fait une projection et j'ai regardé trois candidats possibles. Si Mélenchon y va, c'est entre 50 et 53% de chances qu'il réussisse à passer face au RN.
Ok.
Si c'est Marine Tondelier, c'est entre elle y arrivera pas, quoi.
Ok. Votre troisième option, rapidement, François, s'il vous plaît.
La troisième option, c'est Lucie Castetz.
Ok.
Il faut la remettre en route sans attendre les primaires. On squeeze les primaires et on choisit Lucie Castetz.
François nous a donné son ordre et la manière dont il faut réagir. Moi, je trouve ça intéressant quand même qu'il nous parle déjà de 2027. On va y venir. Je vous présente notre tour de table de ce soir. Maxence Lambrecq, c'est bon, l'a entendu, oui, Maxence.
Bon,
vous êtes le chef du service politique de France Inter. Stéphane Zumsteig, bonsoir.
Il est Lillois,
voilà.
Bonsoir.
Donc, vous êtes directeur du département politique et opinion, évidemment, à l'Institut de sondage Ipsos BVA. Vous allez nous dire ce que vous pensez des projections de notre ami François. Maxwell. Il y a Françoise Fressos qui est là également, éditorialiste politique au Monde. Françoise, bonsoir.
Bonsoir à toutes et tous.
Thomas Legrand, vous êtes journaliste éditorialiste politique à Libération. Qu'est-ce qu'on dit de Lille d'ailleurs, effectivement, de ces trois listes-là? Est-ce qu'on dit qu'on est dans une espèce de cas à part, en fait, dans le paysage municipal ou dans un cas d'école de ce premier tour ou pas? Qui veut répondre à ça? Thomas,
c'est un cas. Il y a beaucoup de cas particuliers, mais là, c'est un cas intéressant d'abord qui montre la puissance de la gauche dans les grandes villes. Mais là, ce sont des chiffres quand même assez impressionnants. Ces trois listes, enfin, les écologistes, les socialistes et les insoumis, à eux trois, je parle sous le contrôle de Maxence, donc le Lillois, les trois quarts. Et dans toutes les grandes villes, finalement, la gauche est très très puissante.
Mais c'est puissance de la gauche dans les grandes villes ou c'est puissance toujours du PS quand même? Est-ce que c'est toujours un peu l'apanage PS?
Le PS est quand même très puissant. Le PS va sans doute remporter Paris, le PS va sans doute remporter Marseille. Et à Lyon, ce sont les écologistes et d'autres grandes villes vont tomber. Je pense que dimanche prochain, alors là je parle peut-être sous le contrôle de notre sondeur ici, mais dimanche prochain, il y aura quand même une liste de mairies socialistes importantes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça confirme cette espèce de ce fait que au niveau national, ceux qui animent le débat national tous les jours, notre conversation nationale tous les jours dans le débat de du pays, c'est-à-dire les mélenchonistes, le RN et les macronistes. Bah finalement, au niveau local, pour ce qui est des mairies, mais c'est aussi vrai pour ce qui est des départements et des régions, ce sont les socialistes et LR. Donc il y a une, ce qu'on pourrait appeler une vie politique en lasagne à deux étages en France.
Je retiens le terme de vie politique en lasagne. Françoise Fressos, j'ai vu que vous aviez levé le doigt et j'ai une question pour vous, Stéphane Zumsteig aussi.
Je voudrais, moi, nuancer un petit peu l'analyse. Je trouve que la gauche reste globalement puissante, mais elle est quand même morcelée. C'était la succession de Martine Aubry qui était en jeu et on a quand même un nombre de listes importantes. Et du coup, je me demande si les maires élus seront bien élus ou si, au fond, ils vont souffrir un peu de cette émiettement politique qui, au fond, reproduit aussi ce qui se passe au niveau national.
Moi, je suis assez fascinée. J'ai sous les yeux le gros baromètre Ipsos et Stéphane Zumsteig. Et ce que je vois, c'est notamment sur les souhaits d'alliance entre LFI et les autres partis de gauche et les souhaits d'alliance aussi entre RN et LR. Hein, ça marche dans les deux sens. Et je vois opposé 75%. Là, c'est pour ce qui est de la gauche. À droite, opposé à 60%. Mais le principe de réalité, en fait, nous dit exactement l'inverse. Et cet après-midi-là a été la démonstration de ce principe de réalité. À gauche, à droite dans une moindre mesure, à gauche, si on ne s'allie pas, on perd. C'est aussi, peut-être aussi simple que ça.
Oui, il y avait quand même une impression de sauf qui peut, notamment de la part du Parti Socialiste. Évidemment que, selon moi, en tout cas, le principal événement qu'il faut retenir d'hier soir, c'est cette forte progression des insoumis. Parce que si la gauche est forte, si on cumule, surtout elle est forte là où il y a trois listes, comme l'exemple de Lille, c'est la même chose à Strasbourg, c'est aussi parce que les insoumis, dans la quasi-totalité, pas dans toutes, mais dans la quasi-totalité des grandes villes, progressent fortement par rapport à il y a six ans. Enfin, et c'est d'autant plus remarquable que les insoumis partaient de rien du tout, ils partaient de zéro, ils n'avaient aucune ville. La ville la plus peuplée qu'ils dirigeaient, c'est Fâche-Thumesnil, 18 000 habitants. Et en fait, il y a quand même une triple réussite pour les insoumis hier soir. D'une part, dès le premier tour, ils gagnent des villes symboles. On parlait de Saint-Denis, c'est fait. Roubaix, c'est pas totalement fait, mais c'est fait. Voilà, deux villes de plus de 100 000, c'était les deux seules grandes villes qui étaient
Saint-Denis,
citées.
Saint-Denis, 140 000, ouais. Saint-Denis-Pierrefitte.
C'était les deux seules villes de gros trophées dont on parlait pour les LFistes. Paris gagné dès le premier tour. Deuxième Paris, ils arrivent, et ça personne ne l'avait vu venir, ils arrivent devant le reste de la gauche, dans des villes comme Toulouse et Limoges, et ils sont en mesure de remporter ces villes-là, compte tenu des alliances. Et troisième Paris, et je trouve que c'est le plus grave pour le Parti Socialiste, pour le reste de la gauche, c'est que on a besoin des LFistes quand on est un maire socialiste bien établi. Je prends les exemples de Brest, de Nantes, sans doute de Clermont-Ferrand. Ces villes-là ne resteront dans l'escarcelle du Parti Socialiste que parce que les insoumis ont bien voulu fusionner avec eux. La victoire de premier tour, en tout cas, elle est totale, de mon point de vue, pour les insoumis.
Moi, je voudrais poser la question qu'on a tous en tête depuis le début de cette journée. Est-ce que ça veut dire, c'est à vous que je m'adresse, Thomas Legrand, mais à vous aussi, peut-être Maxence Lambrec, est-ce que ça veut dire que ce qui se passe nationalement n'a eu aucune prise localement? Et quand je dis ce qui se passe, ça veut dire les polémiques qu'il y a eu, ça veut dire les sorties de route pendant les discours, ça veut dire tout ça. Mais au fond, quand on regarde le Rassemblement National,
national aussi, hein, un parti qui est mangé par les affaires, mais localement, il ne se passe rien. Ça veut dire que toutes ces discussions-là n'ont pas de prise, pas seulement sur les électeurs locaux d'ailleurs, hein, Thomas, sur les électeurs d'une manière générale.
Il y a un refus à gauche, il y a un refus de la diabolisation de LFI qui se manifeste à travers ces résultats. Voilà, l'espèce de diabolisation qu'on peut voir dans cette grande conversation nationale, dans le débat entre éditorialistes sur les plateaux des chaînes Tout Info. Cette diabolisation, elle est refusée par les électeurs et aussi par les militants et par certains élus, parce que quand on voit les accords qui se font assez facilement, finalement, c'est vrai que toutes les sorties, le jeu assez trouble de Jean-Luc Mélenchon avec les codes de l'antisémitisme, eh bien, il y a beaucoup de militants et de responsables locaux qui se disent non mais ça ne doit pas nous empêcher de nous unir, même s'ils ne sont pas d'accord. Il faut savoir que des militants dans une ville moyenne, des militants LFI et des militants socialistes sont dans les mêmes associations d'aide aux devoirs, sont dans les mêmes salles des profs, ils se côtoient et ils ne voient pas pourquoi, parce que Jean-Luc Mélenchon provoque tout le monde, ils ne voient pas pourquoi eux, ils laisseraient leur ville à la droite.
Ce qui est une vraie leçon peut-être de ce scrutin. Avant de vous redonner la parole, je voudrais qu'on entende Marc. Bonsoir Marc.
Oui, bonsoir.
Parce que vous aussi, vous êtes dans cette interrogation-là, donc allez-y, sautez dans la discussion.
Bah, je saute, alors non, parce qu'effectivement, ça a été dit juste avant. Enfin, moi, je trouve quand même assez stupéfiant cette espèce de diabolisation permanente de LFI sur deux sujets, enfin deux espèces d'épouvantails qu'on essaie de coller à LFI. C'est un, ce serait un parti d'extrême gauche. Et alors l'extrême gauche, pardon, mais enfin on sait ce que c'est. En France, on connaît l'extrême gauche, les partis trotskistes, ça existe. Donc ça, l'extrême gauche, simplement, c'est un parti de gauche. Enfin, je veux dire, c'est ce que la gauche devrait porter comme valeur d'équité, de justice sociale, etc., qui a été complètement déserté par le PS. Enfin, quand j'entends encore ce matin sur l'antenne de France Inter François Hollande. Enfin, je veux dire, François Hollande aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait pour la France? Il nous a offert Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, c'est quand même génial, quoi, comme le Parti socialiste. Donc LFI, c'est juste la gauche. Donc ça a été repeinturluré en extrême gauche parce que ça fait plaisir à la droite. Puis alors le côté de l'antisémitisme, pardon, alors je veux dire, c'est cette espèce de là aussi de on reproche quoi à Mélenchon et à LFI? On reproche de critiquer l'attitude d'un gouvernement israélien génocidaire qui massacre des dizaines de milliers de civils à Gaza en Cisjordanie.
Non, c'est pas ça qui reproche. Ouais.
Non, c'est pas ça qui reproche. Pardon Marc, je veux pas, non, puis alors, surtout
pardon, non, je termine juste, pardon. Bah, les mots un peu maladroits, etc. Mais ça vient de loin, l'accusation d'antisémitisme. Ça a commencé au moment où on a commencé à LFI à soutenir la Palestine.
J'entends ce que vous dites, Marc, ce qui a bousculé, ce dont on a cru que ça pouvait bousculer les élections législatives, c'était le fameux jeu de mots, je ne sais pas comment on appelle ça, sur Epstein, c'est ça dont on parlait à l'instant, et qui a soulevé à nouveau une polémique autour de Jean-Luc Mélenchon. Mais dans les résultats, Maxence Lambrecht, clairement, ça, on ne l'entend pas, on ne le voit pas.
En tout cas, ça a peut-être été un moteur électoral pour certains.
Peut-être même à l'inverse, en effet.
Oui, je pense que ça a mobilisé, et on n'aurait pas atteint ces scores dans certaines villes pour LFI s'il n'y avait pas eu, finalement, une cristallisation du débat politique dans les dernières semaines autour de LFI, pour ou contre, avec une espèce de duel RN-LFI après la mort de Quentin Derenck, qui a sans doute aussi participé de la campagne malgré tout. Et bien sûr que Jean-Luc Mélenchon montre à travers ce premier tour des municipales que sa pré-campagne présidentielle, il était à 2 à 3 meetings par semaine ces derniers temps, a servi et a été la bonne stratégie de nationalisation. Et en effet, il a de quoi faire 15 à 20% au premier tour de la présidentielle, si on regarde les résultats d'hier.
Mais est-ce que ça parle aussi d'une nouvelle réalité politique? Voilà, c'est notre nouvelle réalité politique en France. Enfin, nouvelle, je ne sais pas, vous reviendrez, Thomas, c'est promis. Mais la radicalité, Françoise, est un moteur désormais. Et ça s'appelle notre paysage politique français.
Alors, je pense qu'il a réussi à capter une certaine forme de radicalité. Je pense qu'il a réussi à capter aussi l'électorat jeune étudiant dans les grandes villes et une partie de l'électorat populaire. Donc, du point de vue électoral et de marche électorale, il est dans une réussite. Là où je trouve que c'est inquiétant, c'est que je trouve que c'est une approche communautariste de la politique, avec des risques de tension très fortes entre communautés, et c'est en cela que pour moi c'est un sujet aussi pour la gauche.
Thomas ?
Oui, non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Maxence, parce que là, on se focalise sur des résultats de grandes villes, avec une spécificité, on le voit maintenant, les villes et les campagnes, le rural et le citadin ne votent pas pareil. Et là, ça ne fait pas du 20%. C'est-à-dire que les 22%...
15 à 20,
oui. les 22% de Jean-Luc Mélenchon en 2022, c'était parce que beaucoup de socialistes avaient voté Jean-Luc Mélenchon. Il y avait une sorte de précipité à la fin de la campagne, parce qu'il pouvait battre Marine Le Pen au premier tour. Ça ne sera plus le cas. Plus personne ne va penser que pouvoir battre Jordan Bardella ou Marine Le Pen au premier tour. Elle sera qualifiée. Et donc, ce vote stratégique n'existera plus. Donc, je pense que le fait de dire aujourd'hui la puissance de LFI qu'on remarque, parce qu'on ne voit que les grandes villes, évidemment, les petites villes où il y avait ou les villages où il y avait qu'une seule liste, le fond de l'électorat rural RN, il ne s'est pas mobilisé. Il existe toujours, il ne s'est pas mobilisé.
Donc, comment là le PS et les écolos peuvent organiser une primaire contre Jean-Luc Mélenchon demain ? Comment ils peuvent réussir à relancer le récit le 23 mars d'une alternative absolument indispensable à Jean-Luc Mélenchon ?
Il y a simplement cette idée qui va être ancrée, et si Jean-Luc Mélenchon ne change pas d'attitude, ne change pas de ton, l'idée sera assez simple de dire que Jean-Luc Mélenchon versus le RN, ça ne marchera pas. C'est ce que martèle François Hollande.
Comment le candidat émergera, c'est exactement le même sujet que pour la droite et pour le centre. On voit l'analyse, mais on ne voit pas le processus qui conduirait à faire émerger ce candidat-là.
Non, c'est une sorte de précipité dans les sondages que tout le monde attend.
Parce que là,
chez eux,
je voudrais rejoindre ce que dit Maxence à l'instant. Est-ce que ces résultats et ce premier tour-là ne plaident pas pour, de toute façon, une obligation, pardon, je le dis comme ça, une obligation de primaire à gauche, comme ça, on met tout le monde sur la même ligne et on verra bien. Et Mélenchon compris, une obligation de primaire, comme ça au moins les choses sont beaucoup plus claires en termes électoraux, parce qu'on sait bien ce qui se passe au bout du compte, quand on voit le nombre de fusions qui ont lieu en l'espace de deux heures dans une après-midi, on sait bien ce bout.
C'est facile de faire des fusions pour des villes. Mm-hmm. Le programme municipal des Insoumis, des Verts et des Socialistes est tout à fait compatible. Mm-hmm. Il n'y a pas de politique étrangère, il n'y a pas de grande politique économique. La position des Insoumis sur les Russes, sur la Russie par exemple, elle est absolument incompatible avec les socialistes.
Vous avez raison là-dessus.
Ou mettre un drapeau ou pas sur.
Il n'y a pas d'international, mais ce qui est intéressant, c'est que les deux partis qui ont beaucoup nationalisé au sens de problèmes nationaux ces partis, cette élection municipale, c'est Stéphane Zumsteck, LFI et le Rassemblement National. Oui, tous les deux, en fait.
C'est-à-dire les partis les plus politisés, les partis qui n'ont pas de barons locaux, les partis qui ont tout intérêt à tirer profit, au sens positif du terme, de la situation, de la colère qui peut être présente au sein de la société, de l'anxiété d'un certain nombre de Français. Mais pour revenir à Jean-Luc Mélenchon, les résultats de ce premier tour, je suis assez d'accord avec Maxence sur ce point, ça met ou ça remet, je ne sais pas s'il était plus en selle, ça remet en selle totalement Jean-Luc Mélenchon dans la perspective.
Vous verrez que lundi prochain, après le second tour, il y aura beaucoup, beaucoup plus de mairies socialistes que de mairies...
Mais quel est le parti qui, à mon avis, en sortira le moins grandi ? Je ne parle pas de solde de ville gagnée, vite perdue. Non, à gauche, c'est le Parti Socialiste, parce que après avoir expliqué qu'il n'y aurait pas d'accord nationaux, après avoir expliqué qu'il y avait deux gauches irréconciliables, après avoir... Même Olivier Faure s'était converti quand même à la rupture.
Il avec Raphaël Glucksmann à Limoges jeudi pour dire jamais au grand jamais. Raphaël Glucksmann enlève ses colistiers de la liste à Limoges, ses six colistiers, pour dire non, je reste sur ma ligne. Et l'Olivier Faure lui signe. Et la numéro 2 du PS, Johanna Roland, signe ce soir, là, il y a quelques minutes, avec LFI.
Et Jean-Luc Mélenchon, donc, je pense, est remis en selle ou mis en selle dans le cadre de la présidentielle. Et qu'est-ce qui a fait le succès de Jean-Luc Mélenchon en 2017 et en 2022 de réussir à asphyxier, à peser en 2022 plus de 80% du vote de gauche? C'était aussi l'insuffisance de l'offre politique alternative à gauche. On ne peut pas dire que la gauche avait présenté ce qui se faisait de mieux dans l'histoire de ces 50 dernières années à gauche. Et c'est le même pari, se dire finalement, ils ne se mettront pas d'accord et on me mettra quelque part, pas des seconds couteaux, mais des gens qui n'ont pas ma capacité à un moment donné à apparaître comme un candidat pouvant accéder au second tour de l'élection présidentielle. C'est ça le principal enseignement quand on se projette dans la présidentielle. Et c'est une mauvaise... Tout ce qui se passe actuellement est très mauvais pour le Parti Socialiste. Quelle lisibilité dans son action ? Mettez-vous à la place d'un sympathisant de gauche. Mm-hmm. Parti socialiste, c'est la guerre, c'est fini avec la France insoumise, mais nous fusionnons à tout va. Il n'y a pas une ville pour l'instant, on verra demain, il n'y a pas une ville que le PS est prêt à sacrifier en disant non, nous ne nous allions pas dans cette ville avec les insoumis, quitte à perdre cette ville. Pour l'instant, les ralliements sont complets, mais systématiques.
Ils ne s'allient pas que là où ils peuvent gagner sans les insoumis, effectivement, à Marseille.
Alors si, à Marseille ou à Paris, pour l'instant. Attendez, ouais, Françoise, je vous ai vu, mais je voudrais justement qu'on écoute Mimosa, parce qu'elle est pile là où nous sommes. Et la voici. Bonsoir Mimosa.
Oui, bonsoir. Moi, je déplore très, très, très fortement la poussée des deux extrêmes, LFI et RN, qui font leur trou, qui font leur place, qui grignotent petit à petit et sûrement, qui gagnent des villes ou des villages, enfin bref, de toutes tailles où ils n'étaient pas, qui s'agrandissent là où ils étaient déjà. Je crois que la France va devenir de plus en plus violente. Pour référence, l'histoire de l'assassinat du militant. Je ne suis pas spécialement pour les militants d'extrême droite, mais tuer un homme à coup de pied, c'est vraiment immonde. Et quant à l'extrême droite, on connaît sa violence depuis des décennies et des décennies. Alors, quand on aura deux parties de ce genre, deux extrêmes qui sont trois même, parce qu'il y a Reconquête, qu'il ne faut quand même pas oublier, notamment à Paris, on s'entre, je sais pas, les gens s'entretueront tout partout. Les fusions, je suis contre. Vous venez parler du PS, etc. On sait plus où on en est. J'ai eu voté à gauche, comme on dit, une bonne partie de ma vie. Alors, vraiment, PS avec LFI, non, vraiment, merci, non. Mais...
On vous a entendu, Mimosa. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais on a compris que pour vous, la fusion, c'était niette. On a bien compris. Et pas d'extrême, ni d'un côté, ni de l'autre, Françoise Fressos.
Oui, c'est pour prolonger. Hein. Ouais. Je pense qu'effectivement, il y a montée d'extrême, il y a montée de la polarisation. Et pour la gauche, la montée de Mélenchon n'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle, parce qu'on voit que dans les projections pour la présidentielle, le rejet de Mélenchon est supérieur maintenant au rejet que peut susciter un Bardella ou une Marine Le Pen. Donc ça pose un problème pour l'ensemble de la gauche. Et je pense que ça renvoie à la crise globale du politique, c'est-à-dire l'efficacité du politique qui est questionnée tous les partis de gouvernement, que ce soit LR, que ce soit le Parti Socialiste et aujourd'hui que ce soit les macronistes, sont questionnés dans leur capacité à résoudre les problèmes des Français. Mmh. Et je pense que la crise nationale s'est diffusée au niveau local à l'occasion de cette élection. Parce que dans les grandes villes, on voit cette polarisation, mais dans les petites villes ou dans les petites communes, on voit aussi une montée de l'abstention, comme si finalement le maire, qui reste une puissante figure, était dans l'incapacité de résoudre les problèmes qui deviennent la numéro un des préoccupations des Français, je pense notamment à la sécurité.
Alors, rejet de la figure de l'extrême-gauche de Jean-Luc Mélenchon, rejet de la figure de l'extrême-droite, mais enfin, au bout du compte, au bout de cette journée, de ce premier tour des élections présidentielles, c'est eux dont on parle le plus, on a l'impression que LR n'existe pas.
Avec cette analyse, je pense que les électeurs de gauche ont le sentiment que au niveau local, les insoumis, c'est pas de l'extrémisme. Voilà. Et je pense qu'ils auraient une autre attitude, encore faudrait-il qu'il y ait effectivement des candidats crédibles, mais ils auraient une autre attitude s'ils devaient voter pour un candidat national, pour une politique nationale. Mais au niveau local, ils voient bien les électeurs, ce que font les uns et les autres, ce que proposent les uns et les autres. Et je trouve que s'il y a une crise de l'impuissance publique, comme vous dites, Françoise, elle est au niveau national, au niveau local, les gens voient bien les changements. Les changements que les maires font. Et à Paris, on dit tiens, mais c'est peut-être Rachida Dati n'était peut-être pas la bonne candidate. Non, et si simplement, à Paris, les gens étaient contents de des changements réels qu'on a vus. Il y a vraiment eu des changements. On peut les questionner, on peut être pour ou contre, mais enfin, il n'y a pas d'impuissance publique au niveau local.
Je suis d'accord que les changements écologiques à Paris sont sans doute un bon point pour la gauche. Mais dans un tas de communes rurales, je prends par exemple l'histoire du narcotrafic. C'est extrêmement cité parmi les préoccupations des Français. Et en fait, la lutte contre le narcotrafic qui maintenant touche des villes moyennes, c'est pas du tout le bien maire sûr.
C'est parce que c'est pas le maire qui a le pouvoir que les électeurs savent très bien que en votant pour un insoumis ou pour, enfin, ils ont pas l'impression à ce moment-là de voter à l'extrême gauche.
Ils n'ont aucune compétence régalienne.
Oui,
c'est ça.
Ils auront une autre attitude, à mon avis. Ils auraient une autre attitude dans une élection nationale. Je pense.
Est-ce que ça veut dire que c'est vers vous que je me tourne, du coup, Stéphane Zumstein, Monsieur le Sondeur? Est-ce que ça veut dire que rien de ce qui se passe là aujourd'hui, de ce qui se passe surtout après le deuxième tour, dimanche prochain, n'est transposable d'une manière ou d'une autre avec ce qui se passera l'année prochaine en 2027.
Je suis d'accord. Et cette idée, on ne peut pas transposer.
En tout cas, est-ce que ça nous donne une idée ou est-ce que, à l'image de ce que dit Thomas Legrand, on n'imagine même pas que ça nous donne une indication au moins.
Non, ça donne une indication sur les écuries présidentielles, en fait. Voilà, il y a une indication, c'est Édouard Philippe. Il ne va pas être battu normalement au Havre, donc il ne sera pas éliminé de la compétition. Jean-Luc Mélenchon, je l'ai dit, il se remet en selle. Après, pour les autres, il n'y a aucune traduction tangible.
C'est pas Monsieur Payan qui sera le candidat.
Voilà, c'est pas exactement. C'est pas Johanna Roland non plus. Donc de ce point de vue-là, c'est compliqué de faire un parallèle ou de faire une sorte de projection de la situation politique telle qu'elle sera l'année prochaine à la veille du premier tour. Mais malgré tout, pour en finir avec cette radicalité, j'entends, il y a une radicalité. La radicalité séduit de plus en plus parce qu'il y a une majorité de Français aujourd'hui qui s'estiment très mécontents, voire en colère. Et la colère, c'est un carburant. Après, j'entends le discours sur la radicalité, mais ça renvoie aussi à l'arc républicain. Quand on explique que ni les insoumis, ni les gens qui votent insoumis, ni les gens qui votent Rassemblement National n'entrent dans l'arc républicain en 2022, Marine Le Pen c'est 23%, Jean-Luc Mélenchon c'est 22%, 45% des Français. Est-ce à dire que la moitié du corps électoral vote, ou quasiment la moitié aurait voté pour des gens qui n'étaient pas dans l'arc républicain? Là encore, je pense qu'il faut faire attention aux critiques et attention aux mots qui sont utilisés par ceux qui s'estiment faire partie de cet arc républicain. Quelqu'un qui vote Rassemblement National, nous ne sommes pas, les gens qui votent pour le Rassemblement National ou pour les Insoumis ne s'imaginent pas dans une sorte d'ambiance pré-insurrectionnelle, pour faire simple, l'Allemagne de la République de Weimar à l'aube des années 30, non. Et ils prennent ça comme une insulte personnelle. Oui. Ça ne fonctionne pas. C'est comme à l'époque, quand on parlait du Front National, on disait c'est un parti de collaborationnistes et d'OS. Enfin, et ça a continué jusqu'à peu de temps.
Ce sont ses créateurs et ses cadres, mais il n'y avait pas les électeurs.
Et dire des insoumis ou du Rassemblement National qui ne jouent pas le jeu de la démocratie, eh bien, c'est insulter durablement leurs électeurs. Et ça ne fonctionne plus.
Comme dire les insoumis sont antisémites. Les électeurs insoumis sont antisémites.
Mais ce qui glissait sur Jean-Marie Le Pen glisse maintenant sur
d'autres. Y compris d'extrême gauche, de ce que je lis là sur les messages WhatsApp qui sont en train de tomber et qui nous engueulent tous très allègrement.
Mais beaucoup d'électeurs RN hier ont choisi le maire sortant d'hiver droite. Il faut pas se leurrer, il n'y a pas eu 9 millions de votes RN hier soir. Et beaucoup se sont positionnés localement en se disant que le maire sortant faisait bien l'affaire, point.
Je reviens, Stéphane Zumstein, sur ce que j'ai sous les yeux des Français apaisés ou en colère. Les chiffres, ils sont quand même assez raides. En colère ou très contestataire, 48%. France mécontente, mais pas forcément en colère, donc on est quand même un peu en colère, 50%. France satisfaite et apaisée, 2%.
C'est
tout petit. On a presque envie de les mettre sous verre. C'est vraiment tout petit.
Mais c'est dramatique. Pourtant, il y a plus de 2% de la population qui se porte bien. Et malgré tout, l'immense majorité, l'unanimité quasiment des Français s'estime que les choses vont très mal et qu'ils sont soit, comme vous venez de le dire, mécontents, voire très mécontents, ou pire, en colère.
La fameuse satisfaction individuelle et insatisfaction collective.
Je voudrais vous soumettre à tous cette question de Camille sur WhatsApp que je trouve intéressante. Comment expliquer que les électeurs ne votent pas la même chose suivant les élections? Moi, je vous explique. Dans mon village, par exemple, dit-elle, moi, il y a 4000 habitants. Aux deux législatives, le RN est arrivé en premier à plus de 50% et le maire élu est PRG à 55%. Et il y avait deux candidats de droite. Donc, où est la logique?
Mais quand le vote RN, et on le voit dans leur difficulté...
Parti radical de gauche, pardon.
On le voit dans leur difficulté à trouver des cadres et à continuer, même après les victoires en 2022 et 2024, ils n'ont pas réussi à trouver un encadrement suffisant, à faire des listes crédibles. On a vu avec ce qu'on appelait les brebis galeuses par dizaines et dizaines. Le vote RN, ça vote, c'est aussi quelque chose qu'on fait un petit peu rageusement, en secret, derrière son écran, dans son isoloir. Alors que Parti radical de gauche, le PRG, les partis plus installés, sont des partis qui ont, dont les militants sont aussi membres des associations, et ils ont un ancrage dans la démocratie quotidienne, pas simplement la démocratie des élections, mais la démocratie quotidienne. Vous savez, quand un nouveau candidat dans une petite ville, un nouveau candidat RN apparaît, généralement les journalistes ne le connaissent pas, il vient de nulle part. Quand un nouveau candidat LR ou PS apparaît, les journalistes savent que c'est le dentiste, le patron de l'association de police, Donc, le vote RN reste encore, même s'il est massif, un vote, à mon avis, encore de protestation.
Allez-y, Françoise.
Moi, je ne pense pas qu'il reste seulement un vote de protestation, mais je pense qu'il faut des années et des années pour travailler une implantation locale et qu'on voit bien la limite quand même du parti. Et par ailleurs, il y a quand même un affaiblissement très fort des structures locales du Parti Socialiste et de LR et qui nourrissent aussi la crise du politique actuelle.
Il y a eu quelques contre-exemples. La Ciotat, par exemple, ils ont réussi à attraper le patron de la Chambre de commerce, il me semble, et ils ont retiré le militant historique RN. Et donc, c'est ce notable local qui a porté la liste. Autrement, dans 9 départements, par exemple, il n'y a eu aucune liste RN, juste parce qu'ils n'ont pas réussi à en constituer. Et après, dans beaucoup d'autres villes, les députés RN ont été priés de se lancer. C'est le cas de Julien Sanchez à Nîmes, qui peut gagner. C'est l'une des villes à suspense de dimanche prochain. Julien Sanchez a été missionné là-bas sans vraiment connaître la ville.
Vous disiez, Maxence Lambrecq, tout à l'heure, que les alliances et fusions ont été extrêmement rapides aujourd'hui.
Ah oui, après, il y a une histoire d'impression de bulletin de vote. Mais spectaculaire, de fait, c'est spectaculaire.
Le sens de ma question, c'est est-ce que ça veut dire que... est-ce que ça ressemble à ce qu'était le front républicain des élections précédentes, cette idée que cette fusion... cette idée que cette fusion peut exister et exister vite, ou pas du tout?
Ils n'ont jamais arrêté de se parler, hein.
Ils se connaissent tous, dans les villes, les insoumis, les socialistes.
Ils ont parfois été ensemble au conseil départemental, à la région.
Ils ont tous les 06 de tout le monde.
Il y a quand même des intérêts électoraux bien compris en matière de sièges.
Ah, évidemment, voilà. Et il y a déjà eu beaucoup d'accords là sur la suite, sur la métropole où il y a des sièges à prendre, sur tel ou tel adjoint, et bien sûr qu'ils n'ont pas arrêté de se discuter.
C'est le rapport entre intérêts politiques et valeurs. Quand les socialistes n'ont pas du tout besoin des insoumis, comme à Paris, à Marseille, où ils pourront gagner sans, et même ils gagneront mieux sans qu'avec, ils mettent en avant les valeurs. Et puis quand ils en ont besoin, parce qu'ils sont à touche-touche, les valeurs ont un petit peu moins de... Il y a cette zone grise de la politique.
Et là, le dernier communiqué qui est tombé, c'est celui de la France Insoumise à Lille. Les écologistes ont préféré piétiner le vote populaire et monter à bord du Titanic socialiste. Il a préféré le François Hollande local à la solidarité avec le peuple palestinien. Stéphane Bally, donc le candidat écolo, a préféré la lâcheté du maire sortant.
Et là, le groupe est bien quand même. Conduit,
mais voilà. Mais vous voyez,
c'est quand même assez violent.
C'est quand même assez violent. À côté, dans d'autres villes, LFI est ravie de se marier avec le PS et avec les écolos. C'est quand même spectaculaire en une journée.
Voici Solène qui nous attend. Bonsoir Solène.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Solène.
Moi, j'avais juste une remarque en fait. Donc, je suis à Lyon. Et en fait, quand j'ai voté pour le candidat en question, j'ai juste regardé un programme. Et je pense qu'à partir du moment où en fait on regarde un projet, on se met à voter. Pour moi, en fait, c'est ça les municipales. Et je trouvais que ça faisait du bien, en fait, de pas forcément chercher à sans arrêt politiser dans le sens national, etc. Mmh. Moi, je me suis pas demandé pour quel parti je votais. J'ai juste regardé un projet. De me dire, ok, je fais un bilan par rapport à un candidat, est-ce que j'ai trouvé ça bien ou pas? Et je trouve que finalement, se projeter sur les élections de l'année prochaine, de nous parler depuis 4 ans, 5 ans, de qu'est-ce qui se passera en 2027, ça fait juste du bien de voter là, pour des municipales, pour du local, sans forcément trop mettre tout de suite, faire des projections avec les sondages, etc.
Sans voter contre.
En voter pour et sans voter contre.
Là, on peut voter pour en regardant les projets qui sont assez concrets, compréhensibles.
Mais encore une fois, et c'est vrai, et vous avez raison, et c'est vrai, plus la ville est petite d'ailleurs, et plus c'est vrai probablement, c'est vrai aussi dans les grandes villes, mais on ne peut pas s'empêcher de voir, quand on regarde les pourcentages, les résultats, et quand on regarde les sondages, de se dire qu'il y a quand même beaucoup de votes qui sont des votes nationaux, y compris pour des élections municipales. Ce sont les statistiques qui le disent.
Oui, puis ce qui compte aussi, c'est quand même la personnalité du maire, et puis ce qui compte aussi, c'est la probité du maire, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des projets très très qui vous intéressent beaucoup, puis vous êtes quand même obligé de vous interroger sur la capacité à le réaliser.
Alain Quérignon est en tête. Hein,
voilà. Et donc, moi je nuancerai là-dessus en disant quand même, il y a la personnalité compte quand même beaucoup.
Mais Solène, si je peux me permettre, vous avez trouvé des différences fortes entre les projets entre les différents candidats?
Je sais pas si Solène est partie. Solène, à l'instant, je la vois
justement, à gauche,
à virer
exemple,
de couleur.
Il n'y a pas beaucoup de différence.
Non, mais voilà, c'est pour ça
qu'on peut comprendre plus facilement les fusions, malgré le débat très polarisé au niveau national, au niveau local. Oui. L'électeur qui regarde les programmes, et il y en a encore, et bah, c'est vrai qu'il peut peut-être un peu mieux comprendre que nous, les débatteurs de plateau, pourquoi les fusions se font plus facilement.
Mais oui, parfois, c'est juste un nombre de policiers municipaux en plus. C'est un nombre de caméras qui varie.
On en a parlé, évidemment, mais je voudrais revenir quand même un tout petit peu sur le Rassemblement National. Est-ce qu'on dit le pari est réussi pour ce premier tour pour le Rassemblement National? Est-ce qu'on est quand même un peu au milieu du gué entre deux eaux pour l'instant? Qu'est-ce qu'on dit, Stéphane Zumsteg?
Alors, moi, je pense que le
pari... Donc, plus de mairies, ça, c'est sûr. Oui. Les fiefs, rien à dire. Le pourtour méditerranéen égal à lui-même, mais...
Oui, mais le pari est sans doute réussi dans la perspective du premier tour. Quand on fait le bilan du premier tour, ce ne sera pas forcément la même chose quand on fera le bilan du second tour dimanche soir prochain. Premier tour, qu'est-ce que ça veut dire? Deux chiffres. Louis Alliot, la plus grande ville, Perpignan, détenue par le Rassemblement National, en 2020, il obtient 36% des voix au premier tour. Il en a obtenu 51% hier soir. C'est bien la preuve que lui aussi, d'ailleurs, a bénéficié de l'enracinement, de la prime au sortant, mais ça veut aussi dire que quand le Rassemblement National dirige une ville, on n'est plus dans la situation chaotique de 1995 où les choses s'étaient très très mal passées pour lui, notamment à Toulon à l'époque, Marignane, Vitrolles, ainsi de suite. Les élus du Rassemblement National peuvent faire, sur la base des résultats du premier tour, la démonstration que quand ils dirigent une ville, eh bien, ils sont plébiscités par leurs administrés, puisqu'ils sont réélus au premier tour. Je n'ai plus en tête le chiffre d'Hénin Beaumont, mais je crois qu'on
c'est 70,
est presque... Oui, on est à 70% élus au premier tour. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc rien que ça, c'est une victoire.
Après, ils n'ont pas franchi une marche. Hein, ils n'ont pas non
après,
plus
ils avancent lentement. Si le Rassemblement National avance lentement, scrutin municipal après scrutin municipal, parce que quand on voit les gains possibles maintenant... Le ballottage est plutôt défavorable à Marseille. C'est vraiment pas fait à Toulon. Et il y a évidemment une victoire qui est d'ores et déjà annoncée, c'est celle d'Éric Ciotti à Nice, mais c'est plus lié à une question de rivalité entre deux personnes. Et Éric Ciotti n'est pas membre du Rassemblement National.
Il n'est pas perçu comme ça, je pense.
Et puis c'est aussi un ancrage local, au fond, Éric Ciotti.
Donc les gains seront limités, probablement, au second tour.
Après, il faudra voir le nombre de conseillers municipaux. Il y en aura forcément plus qu'en 2020. Et ils avaient reculé par rapport à 2014. Et sans doute beaucoup plus de sénateurs, quand même, RN, à l'issue.
Françoise, vous aurez le mot de la fin.
Oui, et juste par ailleurs, il y a quand même une forte volonté des électorats, à la fois RN et LR, au fond, de faire une fusion, ou en tout cas de s'entendre. Et ça, ça profite quand même au Rassemblement National.
Et vous avez raison,
c'était Reims, c'est la seule, on est d'accord.
Parce que j'ai froncé les sourcils tout à l'heure. Ouais. Reims, c'est bien la seule union. Alors, le candidat LR qui fusionne avec la candidate RN est menacé d'expulsion, d'exclusion.
Voilà. Mais pour l'instant, c'est...
Mais vous avez raison.
C'est la seule. C'est pas grave, vous pourrez revenir quand même, Maxence.